Savane.
Bonjour monsieur.
Bonjour, je prendrai un micro s'il vous plaît.
Un micro caramel, vanille, chantilly.
Un micro à la dérive.
Un micro à la dérive, un micro à la dérive.
Un micro à la dérive, à la dérive.
Un micro à la dérive, qui s'écarte de la direction normale sous l'effet des vents, des courants. Oui, mais un micro qui revient toujours à son port, chargé de sons et d'envie d'ailleurs. Pour le thème qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le tatouage, il est nécessaire de savoir que de tout temps et dans la plupart des cultures, l'homme s'est toujours peint sur lui-même ou a peint sur l'autre. Si ce n'était la peinture, c'était la scarification, c'est-à-dire les techniques pour inciser superficiellement la peau et créer des motifs, ou le tatouage, c'est-à-dire les techniques de marquage par piqûre pour introduire des encres colorées sous l'épiderme. Dans l'imaginaire collectif, il a été associé, je parle du tatouage, tantôt à l'exclusion sociale, le témoignage d'une vie marginale, la pègre par exemple. Et c'était en Europe. Et à contrario, c'était aussi une marque de prestige social, comme on a pu le remarquer en Océanie. Or, depuis deux décennies, le tatouage s'est très largement démocratisé, et ce grâce notamment au développement d'Internet et à l'échange des informations. Rien que dans une ville comme l'Orient, on dénombre environ une vingtaine de salons de tatouage. On peut citer entre autres Red Bones Tattoo, Watatiki Tattoo, Lady Luck, Vincent Gautron, Lamu Tattoo, Maloya, JC Tattoo, Black Hills Tattoo. La liste est longue et non exhaustive. Et un micro à la dérive s'est échoué aujourd'hui chez Vincent Gautron. On commence par lui car dans le jeu d'enquête qui m'a fait rencontrer les tatoués, des patrons de bar avec qui on discutait, très souvent, le nom de Alain Gautron revenait. Alors, ce portrait est le premier d'une petite série de 3 ou 4 épisodes qui nous feront rencontrer par la suite les tatoueurs qui travaillent chez JC Tattoo, Red Bones Tattoo et enfin Wakatiki. Mais pour aujourd'hui, écoutons le témoignage de Vincent Gautron qui fut l'un des initiateurs et organisateurs de la pratique du tatouage en France et ce, dès les années 90. On va commencer cette série de portraits de tatoueurs tatoués par le premier, qui s'appelle Alain. Alain est situé au 52, avenue de la Perrière. C'est un cabinet de tatouage assez simple, avec à sa gauche un restaurant, la Cambuse. Il m'a donné rendez-vous ce mercredi matin, et puis il m'a proposé gentiment de l'interviewer en compagnie d'un de ses clients, qui s'appelle Patrick. On va rentrer. Bonjour Alain, il est occupé, il est derrière, il se prépare. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Qu'est-ce que tu fais?
Je choisis un tatouage.
Donc Patrick, toi tu es l'un des clients d'Alain.
Mon premier tatouage c'était Bruno à Pigalle, à Paris.
Et auparavant, à Lorient, il n'y avait pas de tatoueur qui était capable, compétent pour le faire?
Non, ce qu'il y a, c'est que j'ai rencontré Alain, c'est à une convention de tatouage à Bourges. Et il m'a piqué à ce moment-là, et puis comme ça m'a plu, j'y suis revenu. Quoi.
D'accord. Donc là, Alain, il est dans son cabinet, qui est situé à l'arrière de son magasin. Donc il prépare tout son matériel. Qu'est-ce que tu fais, Alain? Je m'approche de toi.
Je prépare mon plan de travail. Je prépare mon plan de travail, donc je l'ai désinfecté. Et puis là, je prépare des protecteurs pour tout ce que je vais toucher. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir le moins de travail possible. Donc plutôt que de nettoyer, on préfère protéger et puis jeter les protections, hein, comme ça se fait de plus en plus. Donc voilà, première étape dans le tatouage, le plan de travail, l'asepsie. Après, on va s'occuper du matériel plus technique, mais pour l'instant...
Tu as commencé il y a 35 ans à peu près?
Oui, 83.
En 83. Comment tu avais commencé à l'époque? C'était le même matériel?
Quasiment la même chose. C'est le confort qui s'est amélioré, mais le matériel de base, le matériel qui sert à piquer, c'est quasiment la même chose. Mes machines, là, mes machines à tatouer, je les ai depuis 25 ans, c'est les mêmes. Ça n'a pas évolué. Enfin, moi, je n'ai pas évolué. Le matériel, très très peu, depuis un siècle, c'est la même machine.
Alors, qu'est-ce qui a évolué? C'est les normes d'hygiène?
Le statut, ouais, beaucoup. Le statut, avant, moi, quand je me suis installé, il n'y a aucun statut, rien. On était libre comme l'air de faire ce qu'on voulait, quoi. Ça a duré 10 ans, et puis après, sous l'impulsion de l'Association française du tatouage, dont j'étais le président, on a demandé au gouvernement de mettre des normes en place pour éviter qu'il y ait trop de casse, quoi. Et voilà, on a commencé en 86, et on a eu une loi, un arrêté en 2008.
D'accord. Et quand tu as commencé en 83, qu'est-ce qui a été le déclic pour rentrer dans ce métier ?
L'argent facile. Hein, le milieu où tout est possible, où rien n'était interdit et où on se faisait payer direct au cul du camion. Alors ça, c'était, pour moi, c'était une nouveauté, je trouvais ça génial, quoi. Ce côté un petit peu anarchiste de pouvoir gagner sa vie sans rien demander à personne, en faisant un truc complètement décalé. Alors là, j'ai quitté l'université pour faire ça, quoi.
Et tu faisais quoi auparavant ?
J'étais à l'UBO, je faisais un doc de physique-chimie, et puis j'ai entamé une licence de chimie, et puis j'ai laissé tomber, de toute façon, parce que j'étais pas doué, et ensuite parce que j'ai besoin de gagner ma vie rapidement. Alors ça, le tatouage, ça a été vraiment la porte de sortie et l'entrée dans un nouveau monde, donc ça a été assez violent et assez rapide. Ouais.
Et on imagine en même temps qu'il y a des prérequis, savoir dessiner, et, donc on ne s'improvise pas directement tatoueur, même si on a marre de la fac, hein.
Ah non, on s'improvise en quelques semaines. Oui. Le plus dur à l'époque, c'était d'avoir du matériel, parce qu'il n'était pas en vente libre et qu'il fallait se faire parrainer par un autre tatoueur. Tout le matériel qu'on achetait, il était soit en Angleterre, soit aux États-Unis. Et en France, c'était vraiment tabou. Et les autres tatoueurs, ils t'aidaient pas, hein, bien évidemment. Donc, il fallait trouver un tatoueur qui était assez sympa pour te fournir les adresses ou pour te revendre du matériel d'occasion et puis pour te donner quelques conseils d'utilisation. Enfin, c'était assez restreint, quoi. Et la plupart du temps, t'apprenais sur le tas en te faisant tatouer toi-même, quoi, et en fréquentant les ateliers. Et puis après, dès que t'avais du matériel, tu bricolais sur tes potes et puis ça démarrait comme ça, quoi. Mais les prérequis, il n'y en avait aucun. D'ailleurs, la plupart des tatoueurs de cette époque-là, c'est des gens qui viennent du banditisme ou des milieux quand même extrêmement louches de la société, hein. C'était pas des universitaires comme moi.
Mais donc t'es un peu atypique dans le milieu du tatouage. En 83, tu commences le tatouage. Tu es installé où à l'époque? T'étais pas encore installé à Lorient?
Si, j'étais un rue Descartes, à l'angle de la rue Descartes et de la rue de l'Armor. Alors c'était un peu marrant parce que j'avais quand même fait 8 ans au lycée du Puy-de-Dôme. J'étais rentré en 6e jusqu'à la terminale et j'étais parti faire mon service militaire et quelques années plus tard, je me suis installé à 100 mètres. Donc j'ai passé pratiquement 40 ans dans la même rue, quoi. C'est pour un gars qui voulait voyager, c'était pas terrible, quoi.
Et comment part ta volonté? T'es donc devenu président de l'Association française des tatoueurs. Pourquoi?
Ah ben alors, c'est pas par ma volonté, c'est parce que j'étais pratiquement le seul à avoir le bac et le seul à savoir parler. Donc mes collègues m'ont projeté sur le devant de la scène. Alain, toi tu y vas, quoi. Parce que la plupart des autres, ils avaient un casier ou ils étaient timides ou ils avaient pas mon niveau de culture. Donc j'étais borgne au milieu des aveugles, hein. Donc j'ai été précipité au sommet de la hiérarchie naturellement, on va dire. Avec Jean Marina de Nantes, qui était aussi quelqu'un de très cultivé. Mais la plupart, ils n'avaient pas trop envie des feux de la rampe, hein, pas tellement.
Et à partir de quel moment, on peut dire qu'en France, ça s'est enfin professionnalisé, vraiment, que les gens se sont investis?
Et pour avoir un statut légal, il faut attendre 2008. Hein, donc,
2008.
Après, le grand démarrage du tatouage professionnel, c'est quand même la convention qu'on avait organisée à Paris en 91, à l'Élysée-Montmartre. Où là, on a officialisé, puisqu'on est quand même passé à Canal+, France 2, enfin, toutes ces chaînes de télé, voire TV5 Europe. Et là, le gouvernement, il était obligé de nous prendre en considération. Donc, on a eu une petite bataille d'avocats qui a duré une heure, là, puisqu'ils ont essayé de nous interdire la manifestation. Et on a débloqué la situation. Donc, à partir de cette grande convention à l'Élysée-Montmartre en 91, il ne pouvait plus nous ignorer, puisqu'on avait fait la grande famille en direct avec Delarue, Canal+, il ne pouvait plus dire qu'on n'existait pas, quoi. Donc là, je pense que la naissance du tatouage professionnel, on pourrait la situer en 91 à peu près.
Et ce problème de reconnaissance, il était commun à tous les pays d'Europe ou bien c'était vraiment spécifique à la France ?
Non, c'était commun à tous les pays d'Europe. À part que, évidemment, l'Angleterre avait de l'avance. La Hollande, ils étaient déjà pas mal engagés aussi. Et après, quand tu descends dans le sud, l'Espagne, ça n'existait pas. L'Italie, ça n'existait pas. Donc nous, tu démarres la carte de l'Europe par le nord et tu descends sur le sud, dans le milieu du tatouage. Bon, et c'est vrai qu'après 91, on a essayé d'unifier les normes et d'unifier. On s'est servi des Hollandais et pour essayer d'influencer le gouvernement en leur disant « Mais chez les autres, il y a une loi, donc on va faire la même chose chez nous. » Alors il se trouve que ça, c'est pas gagné et on n'a eu aucun soutien du gouvernement à l'époque. Et la normalisation, elle ne pouvait pas venir par l'Angleterre parce qu'ils sont trop particuliers. Donc c'est un peu tombé dans l'oubli. Et puis après, une fois qu'on a un peu dissous l'association, on a créé le Syndicat National des Artistes Tatoueurs. C'est-à-dire que le gouvernement nous a dit, tant que vous ne serez pas 500 professionnels syndiqués, vous ne serez pas représentatifs. Donc, les tatoueurs se sont groupés en syndicats. Le SNAT, qui existe toujours et qui a été le principal interlocuteur pour faire une loi, un arrêté qui a abouti en 2008, quoi.
Je ne porte pas de perlouse, je ne suis pas un nervi, je trouve que ça fait tartouze, et c'est pourquoi moi je vous le dis, j'ai l'air de ne pas avoir l'air, mais avec mon air je fais la pige à bébé. Je suis un dur, un vrai, un tatoué, je fais pas des manias. Qu'est-ce qu'on y gagne? Pour les tournants, moi faut pas me les jouer. J'ai risqué le bagne, faut l'avouer. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles. Il en faut pour que je m'emballe. J'ai discuté, car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique. Et voilà tout le portrait d'un tatoué d'un dur d'un vrai.
Merci à Fernandel et à son interprétation d'un tatoué invrai. On retrouve Alain Gautron, le tatoueur, au 52 avenue de la Perrière. Alain qui nous expliquait auparavant son rôle dans l'émergence et la reconnaissance du métier de tatoueur auprès du gouvernement. On va s'intéresser maintenant à ce qui motive les clients, futurs tatoués, et notamment l'influence d'Internet. D'accord. Je vais te laisser préparer ton matériel. Je vais décrire un peu ton atelier. Donc, dans l'entrée principale, il y a sur le mur plein d'affichages que Alain a trouvé sur Internet, principalement dans des revues aussi, et qui servent d'inspiration pour les clients. Les clients qui viennent ici, ils ne viennent pas forcément avec un projet clé en main. Parfois, on va dire que leur principale source d'inspiration, c'est Internet. Hein.
Actuellement, oui. Hein. Comme je dis souvent, Google Images dessine beaucoup mieux, beaucoup plus vite que moi. Donc, c'est vrai que c'est le monde moderne. Hein. Internet, c'est la fenêtre ouverte sur tout ce que tu peux trouver en modèle de design, d'exemple. Souvent, pour les gens, les modèles les plus courants, les plus utilisés, les plus à la mode, donc, qui sont en haut de la page. Donc oui, c'est un outil principal.
Tu es en train de dire qu'en fait, il y a une sorte d'appauvrissement de la créativité auprès des tatoués qui cherchent le plus commun.
Non, pas forcément. Mais à partir du moment où tu multiplies par 100 la clientèle, tu fais le grand écart.
Tu vas aller du plus basique, du plus populaire. Faut quand même pas oublier que le tatouage, c'est un art populaire. Hein. Ouais. Ça vient de la rue, hein, ça vient pas de l'université. Donc, tu vas faire le grand écart. Tu vas trouver des choses très, très simples. Le prénom des enfants qui viennent de naître, jusqu'à l'œuvre d'art dans le dos d'un artiste qui se fait payer très, très cher et qui va te refaire le tatoué avec Jean Gabin et le Modigliani. Tu, vois. Ouais. Tu fais le grand écart, c'est tout. C'est tout ce que je veux dire. Et c'est vrai que l'influence d'Internet sur les gens des classes populaires, c'est très très fort. L'effet de mode est très très fort, on ne peut pas le nier, quoi. Mais ça a toujours existé. Avant, moi, que j'ai fait mon service militaire dans la marine, un gars sur deux, il avait un bateau sur le bras. C'était comme ça, on ne cherchait pas à midi à 14h.
Alors, qu'est-ce que tu fais là pour Patrick hein?
Là, je vais faire une rose sur le bras pour cacher un petit trou qui reste pas tatoué, là. Et puis, donc là, je vais préparer le transfert, c'est-à-dire je vais préparer, à partir du dessin que j'ai sur une feuille, je vais un petit peu le personnaliser, et puis on va essayer de le positionner par transfert sur le bras, pour évaluer la position, voir si le motif est crédible, puis voilà.
Quand tu parles de transfert, il faut imaginer une décalcomanie ?
Oui, c'est ça, voilà, on va prendre sur la feuille de papier, on va l'enduire d'encre, et on va poser sur le bras pour que le squelette du dessin se reproduise sur la peau.
D'accord. Bon, je te laisse travailler.
On fait ça, là, comme ça. Voilà. Tu gardes les deux ou t'en veux qu'une seule?
Bah, comme ça, ça serait bien de faire ouais. tout l'ensemble, quoi.
Ouais, ouais. Parce ouais. Que, comme là, ça
couvrirait tout ça, quoi.
Parce que là, on allant chercher des feuilles là-bas. Toi, qu'on a la courbure qui vient bien là. Hein?
Ouais. Donc.
Christelle est demandée en caisse 2. Christelle. Bon, tu te grouilles, ça urge. Il y a un micro à la dérive qui commence. Christelle !
Je vais la faire un peu plus ronde.
Tu le sens bien, celui-là ?
Ouais. Ouais, okay. J'aime bien, moi, la disposition des feuilles. Mmh. Et puis, là, ce que j'aime pas trop, c'est le côté un peu anarchique des cœurs, là, tu vois. Ça, je vais faire un truc un peu plus régulier, là, tu vois. Cette partie-là, je l'aime. Je la trouve un petit peu brouillon.
Anarchiste, ouais.
Voilà, ouais.
Tu peux me raconter tes tatouages, Patrick hein? En commençant par le premier, qui date des années, du début des années 80.
Bah, le premier, c'est avec un pote. On avait décidé chacun de se faire le même motif. Quoi. C'était dédié à notre mère. C'est un peu con, mais c'est comme ça.
Il est où ?
C'était à l'époque, c'était la pensée. Là. Celui-là, c'est je suis de chez Bruno à Paris. Quoi.
D'accord.
Ça a été mon premier tatou. Quoi.
En fait, c'est une sorte de melting pot. Hein. Il y a des motos, il y a des motifs celtiques.
C'est un peu toute ma vie là-dessus. Quoi.
Comment ?
C'est un peu toute ma vie là-dessus. Quoi.
Bah justement, alors, on continue. Alors, donc, il y a la pensée par rapport à ta maman. La moto.
La moto. Ouais, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ?
C'est le rock'n'roll.
Ouais, rock'n'roll, voilà, c'est ça. Ouais.
Ah ouais, le rock'n'roll.
Bah, attends, je vais te montrer un truc aussi, ça va te donner l'idée.
Là, Patrick enlève son t-shirt. Et il me montre son dos. Et je vois une faucheuse, donc l'encou. On dirait que les tatouages ont un peu disparu, hein, comme s'ils avaient été effacés par le soleil.
Bah, ah, c'est en vieillissant, ça se ternit un peu, quoi. De toute ouais. façon, Alain serait plus apte à parler de ça que moi. Et puis voilà, quoi.
Donc on voit une toile sur l'épaule enfin, gauche, on voit une toile d'araignée avec une tête de mort et une araignée, c'est ça qui...
Ouais, c'est ça, ouais.
Et dessous, toi, un motif... qu'est-ce que c'est ?
C'est une vasiscas, c'est-à-dire... ouais.
C'est celtique indien, voilà, c'est d'origine indienne.
Le problème, c'est que t'as pas mal de gens qui confondent ça et avec la croix gamme, quoi, si tu veux. Et ouais. Ça, c'est un peu gênant, quoi. Maintenant, faut les porter, ces tatouages. Moi, je les assume, c'est bien.
Et d'ailleurs, donc tu as comment donc j'étais avec la faucheuse. Au-dessus, il y a un œil.
Bah,
il y a
la mort dans toute sa splendeur, quoi, en fin de compte.
Comment ?
Ça représente la mort dans toute la folie, la guerre, la maladie. Ouais. C'est un thème que j'ai voulu me foutre dans le dos, quoi.
Ouais, parce qu'on voit une sorte de Non, c'est le Joker qu'on voit à droite.
Le Joker, hein. C'est la folie, ça.
La folie. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Parce que j'arrive pas à tout reconnaître.
Il y a des GI, c'est la guerre. Ouais. T'as des Indiennes, là, c'est la maladie, quoi. Tu les vois, ça... Voilà.
Et quand tu fais ce tatouage, ça, c'est un tatouage qui a été fait par Alain ?
Ouais, tout le dos a été fait par Alain. Ça.
Tu l'as fait il y a combien de temps ?
Oh, je sais pas, il y a combien de temps, Alain ?
J'étais encore à la petite rue Descartes. J'ai fait 18 ans de l'autre côté, 5 ans ici, ça fait 25 ans.
Les années 92, par là,
ouais, ces jours-là. Ouais.
Et là, on voit que le tatouage a terni. Ça peut se reprendre
Oui, là, on pourrait le rénover, ouais, c'est sûr. Après, ça se ternit avec le temps. Ça ternit aussi, des fois, par un manque de technique. C'est-à-dire qu'il y a une époque où on voulait travailler très fin, très gris. Et ça, bon, sur le temps, des fois, ça vieillit pas trop bien. Donc, la couleur, elle se ternit aussi très, très vite. Donc, souvent, la vie de la personne, en 25 ans, tu sais pas ce qui peut se passer. Le tatouage, il évolue avec la personne, il vieillit avec la personne. Et puis... Après, c'est vrai aussi qu'il y a la qualité du tatoueur qui fait qu'au fil des ans, les couleurs se sont quand même vachement améliorées. Les techniques de piquage, a priori, que ça évolue aussi dans le bon sens. Donc, c'est vrai que tu rencontreras énormément de vieux tatouages un petit peu passés. Mais ça, c'est comme une moto. Hein. Voilà, tout passe par le temps, que ce soit la couleur ou la mécanique. Hein.
Pour bien comprendre, le même tatouage fait aujourd'hui tiendra mieux que celui que tu as fait il y a 25 ans, avec des encres de qualité, une technique plus affirmée, plus professionnelle.
Ouais, pas plus professionnel, mais plus d'expérience, toi. C'est-à-dire que tu as plus de recul sur les choses, donc tu sais, tu peux te projeter plus loin. Ouais. C'est sûr que si le même tatouage refait 20 ans plus tard, en général, je te dis, c'est comme une moto, hein, le modèle de 2000, et puis là, les modèles 2020, tu as plus d'électronique, tu as plus de qualité esthétique. En général, ouais, le tatouage en France, il a évolué très, très vite et vraiment dans le bon sens. Hein. Là, on voit des œuvres maintenant qui sont quand même époustouflantes de qualité, quoi, hein, par des gens qui sont totalement inconnus, qui n'avaient pas de tatouage il y a 3 ans, quoi.
Rose Tattoo par Dropkick Murphys. On reprend l'interview de Alain Goutron, tatoueur. Patrick le Tatoué finit de nous expliquer ses inspirations qui ont définitivement marqué sa peau. Et Alain nous livre son analyse sur ce fait de société qu'est le tatouage. Alors sur le bras droit, c'est très morbide. Hein. On voit une tête de mort avec un bouffon, des figures diaboliques. C'est l'anarchiste, c'est quoi c'est,
Ouais, mais là-dessus, ouais, c'est le personnage. J'aime bien, c'est tout con, mais bon, j'aime bien ce genre de motif. Quoi.
Alors aujourd'hui, tu reviens pour combler un trou, c'est ça, on va dire une dent creuse, entre ton tatouage avec la Stavisca et ça, c'est quoi c'est...
Ben, c'est pas mal de trucs que j'ai chopés sur les BD. C'est le Death Killer et... Voilà.
Est-ce qu'il y a une envie de tout couvrir? Est-ce que une fois qu'on a commencé, on peut plus s'arrêter?
Ça commence à être pas mal, ouais. Enfin, là, je commence à boucher les trous, mais il n'y en a plus trop, quoi. C'est dommage.
Ouais, il reste encore tout la poitrine, le devant, il reste la tête.
Ouais, mais il y a des endroits qui me branchent pas plus que ça, si tu veux.
Ouais.
Par rapport, anciennement, c'était par rapport au boulot. C'est-à-dire que si j'avais une chemise sur moi, je voulais demander du boulot sans que ça se voit, quoi. J'aurais pas idée d'aller m'en faire un dans le cou ou sur les mains. Voilà.
Comment Patrick parle de l'acceptation de tatouage par la société. Aujourd'hui, c'est encore un problème ou bien maintenant les gens assument ouvertement, même au travail, leur tatouage?
Oh oui, maintenant c'est assez répandu. Ouais, il n'y a plus beaucoup d'interdictions. Et même de la part des jeunes, maintenant, il y a une grosse provocation. Maintenant, c'est très rapidement le visage, les mains... Mais je pense que professionnellement,
Je suis pas sûr que ça déplaise, parce que y a un truc qui est intéressant, c'est que l'écart des classes sociales repart dans l'autre sens. C'est-à-dire, je pense que les gens des classes inférieures, comme ça, des classes populaires, ils creusent, et ceux qui sont en haut, ils vont de plus en plus haut. Donc, différencier les classes sociales, je pense que ça intéresse un peu tout le monde. Donc, on est moins, tu sais. Ces années où tout le monde voulait être lisse, où tout le monde voulait être un petit peu anonyme, où on voulait resserrer les classes sociales, je pense que maintenant on repart un peu dans les extrêmes. Donc les jeunes vont facilement attaquer les mains, le visage, le cou, même les jeunes filles, beaucoup les doigts, tout ça, que moi, il y a 30 ans, c'était encore tabou, quoi. Maintenant, ça choque plus, mais ça affirme. Hein, voilà, moi je suis un cassos de banlieue et je l'affirme, quoi. Donc,
et toi, tu fais la prévention au sens où tu préviens, attention, c'est un caractère définitif ou quasi définitif. Si je te fais une rose, bien un dessin sur le visage, faudra l'assumer pendant 10, 20, 30 ans.
Ouais, enfin, faut pas les prendre pour des imbéciles non plus, ils le savent. Après, la loi, l'arrêté de 2008, nous oblige à prévenir que ça va faire très mal et que ça s'en va plus. Donc, y a une obligation légale d'avertir la personne, de la conseiller. Et même dans la charte du SNAT, du syndicat, il y a une forte recommandation de prévenir les gens. Maintenant, le type qui se fait tatouer les mains et qui n'est pas au courant que ça s'en va pas et que ça va lui porter préjudice, certainement, bon, alors là, il faut qu'il se fasse soigner, quoi.
Donc, le client, il signe une décharge pour le tatoueur et engage sa propre responsabilité sur les motifs qui vont être gravés sur sa peau.
Non, il signe rien. Il n'y a aucune convention signée entre le client et le tatoueur. Aucune. C'est verbal. C'est complètement verbal, c'est moral.
D'accord. Donc là, tu termines de repasser au crayon bic la rose.
J'imprime par pression.
D'accord.
C'est-à-dire que le stylo, il marche.
Sur un... Comment on appelle ça, une...
Ça, c'est une feuille de carbone. Carbone hectographique.
D'accord.
Ce qui servait à l'époque, quand on était plus jeune... pour reproduire les dans les classes, tu sais, tu n'as peut-être pas connu ça, mais les rotatives à l'alcool à brûler avec ces papiers violets, là, un peu baveux, ben voilà, c'est ce type de papier qu'on utilisait à l'époque.
Et une fois que tu auras fait le motif général, hein, tu fais les limites, hein, tu vas imprimer avec de l'eau sur le bras pour voir l'effet que ça...
Avec un antiseptique, oui. Ouais. Pas vraiment de l'eau, mais ça ne marcherait pas tout à fait, mais un antiseptique alcoolé, ça marcherait bien, ouais.
Je te laisse travailler. Travailler Alain le tatoueur, car un micro à la dérive, c'est fini pour aujourd'hui. Le mois prochain, il y aura une suite à cette interview de Alain Gautron et vous pourrez entendre d'autres témoignages de tatoués. Si vous êtes intéressé par ce travail de reporter sur le terrain, vous faire une expérience via le média radio, contactez-moi par mail à l'adresse suivante, tout attaché, unmicroalladérive@laposte.net, ou sinon manifestez-vous sur Facebook à la page Un micro à la dérive. Sur ce, bonne écoute, et vous pouvez toujours réécouter l'émission en podcasting sur la page de Un micro à la dérive, le site d'Un micro à la dérive. Bye.
Un micro à la dérive!
Un micro à la dérive!
Un micro à la dérive!
Un micro à la dérive! L'émission qui vous écoute!